Hey, bienvenue à un nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, on va parler de la conférence d'Apple qui a eu lieu le 13 octobre dernier. On a pu avoir la présentation du iPhone 12 et bien plus encore. Donc, je vais vous parler de ça immédiatement. Puis après ça, du podcast, je vous parlerai de d'autres choses, je pense. Si le podcast n'est pas trop long, je vais peut-être aussi vous donner mes impressions sur un autre produit que j'ai pu tester. Fait que, bien entendu, la conférence a ouvert avec tout simplement un retour sur la conférence du mois passé. On est revenu sur l'iPad Air 4 et les autres iPads, bien entendu. Puis aussi la fameuse Apple Watch série 6 et la Apple Watch série SE. J'ai pu tester la Apple Watch série SE. Pour de vrai, c'est exactement ce que je pensais. Là. C'est une excellente Apple Watch. Ça va super bien. C'est à ma conjointe là, que j'ai pu... c'est elle qui s'est procuré la SE. Donc, comme je vous disais, là, à part si vous voulez vraiment avoir votre électrocardiogramme... et votre oxygène dans le sang, qui sont des données qui sont bonnes à avoir, ça peut effectivement sauver des vies. Par contre, si vous êtes jeune, vous êtes en santé, vous n'avez pas besoin de ça. C'est vraiment pour quelqu'un qui voudrait vérifier sa santé un peu plus précisément. T'sais, tout peut arriver à tout âge, là, mais c'est sûr et certain que... De toute façon, il y a une étude comme quoi qui montrait qu'en bas de 20 ans ou 22 ans, c'était pas très très, très précis. Bon, de toute façon, on n'est pas là pour parler de ça, mais je vous la conseille. Fait que si vous cherchez une Apple Watch, la série 3 et en descendant, oubliez ça. Là, c'est des anciens modèles. Le look est pas beau. C'est pas les bons modèles à acheter. Si vous en voulez une SE, tant mieux si vous l'avez en spécial. Sinon, le prix est quand même correct. Là. Ça reste des équipements assez dispendieux. Puis, il y a aussi beaucoup de personnes qui ne voient pas encore l'utilité de ça. Je pense que quelqu'un qui ne l'a pas essayé ne peut pas savoir à quel point ça peut être utile. Il y en a aussi qui l'ont essayé et qui ont trouvé ça inutile. Ça, c'est libre à eux. Moi, personnellement, je ne serais plus capable de m'en passer. Je trouve que d'avoir les notifications, de pouvoir gérer nos notifications, de pouvoir répondre avec le mode sommeil, l'alarme tactile. Donc, j'aime vraiment ça, de ne pas avoir un bruit d'alarme qui me répond, qui me réveille à tous les matins agressivement. Là, j'ai juste quelqu'un qui me tâte le poignet, qui est ma montre. J'adore ça, fait que moi, je serais plus capable de m'en passer. Mais là, on n'est pas là pour parler de l'Apple Watch, on est là pour parler de la conférence d'octobre. Donc, on a commencé ça, comme je vous disais, avec un retour là-dessus. Ensuite, on a tout de suite parlé de domotique et on a introduit le HomePod Mini. HomePod Mini qu'on savait déjà, les rumeurs étaient fondées. Par contre, le look a été leaké quelques heures avant la conférence, donc le look du HomePod Mini était une surprise. On est rendu avec un look un peu plus sphérique. Ça ressemble beaucoup à une boule de billard là, qu'on brasse pour avoir notre avenir ou savoir la réponse. Là. Est-ce que Julie nous aime ou non? On brassait? Peut-être? Non? Yes? Je dis yes parce que toutes les boules sont en anglais. C'est ce look-là. C'est donc, sinon, ben, le côté tissu tressé, là, ça reste le même là, que l'HomePod original. Donc, en blanc ou en noir, ou gris-noir. Donc, on nous a bien entendu dit que le son était fantastique. Pour comparer là, la grosseur, c'est environ 9 cm de hauteur, si je ne me trompe pas. Donc, c'est vraiment petit. Là. Il porte bien son nom, Mini, comparé au HomePod. Donc, un bon son, l'intelligence artificielle, bien entendu, c'est Siri. Si vous appréciez Siri, ça répond à vos besoins, ben, vous ne serez pas trop perdu. Si vous trouvez qu'il en manque encore un peu, ben c'est juste une question de mise à jour. Moi, personnellement, j'aime mieux que Siri me réponde un peu moins, mais qu'elle ne m'espionne pas et que les données ne soient pas vendues à d'autres, que d'avoir un système comme Google et Alexa d'Amazon qui... on a finalement le produit. Là. Ça permet effectivement d'avoir des haut-parleurs encore moins chers que les HomePod et tout, mais on est le produit. Encore bien entendu, ils ont mis l'emphase sur le fait du privé. Des informations. Aussi, la domotique. Donc, c'est sûr et certain que c'est un domaine où Apple est en retard, la domotique, avec des haut-parleurs un peu moins dispendieux. Je pense qu'ils ont bien des chances de rattraper leur retard. Il y a aussi des équipements kit qui commencent à descendre, là, des prises, des interrupteurs, des lumières, ainsi de suite. Fait que ça commence à être intéressant d'être du côté d'Apple, surtout quand on est dans l'écosystème d'Apple, c'est ce qui manquait beaucoup. Donc, on a passé quelques minutes à nous expliquer le son, le fonctionnement. C'est sûr que c'est des plus petits haut-parleurs que l'HomePod original. Possibilité de les mettre en stéréo si vous en jumelez les deux dans la même pièce ou le même équipement, là, le même bureau, par exemple. Bien, vous pouvez les mettre en stéréo. Il y a une petite nouvelle effet aussi quand vous approchez l'iPhone pour transférer les médias de votre iPhone à votre haut-parleur et vice-versa. J'ai pas vraiment vu exactement. Là, on dirait qu'il y a plus une animation, c'est-à-dire qu'on voit l'application, par exemple, musique apparaître dans l'écran, mais rien de plus. C'est toujours bien entendu disponible avec Apple Music, mais Apple a décidé de s'ouvrir, donc les podcasts, ça, c'était déjà présent, mais on va pouvoir aussi streamer des services de streaming de musique différents d'Apple Music, comme par exemple Amazon Music et Pandora. Supposément que Spotify viendrait un peu plus tard. Puis sinon aussi, il y a des services de radio comme iHeartRadio ou iTunes aussi qui vont pouvoir être utilisés. On est retourné, après ça, on a parlé un peu plus de Siri. On a parlé encore une fois de la domotique. Ils vont avoir une nouvelle dans l'application domicile. Vous allez avoir un nouvel onglet qui va être Discover, donc qui va vous permettre de découvrir qu'est-ce que vous pouvez faire avec la domotique et des produits, bien entendu, recommandés. L'option Intercom aussi qui va être disponible, donc un peu comme Google et Alexa, vous allez pouvoir par exemple dire la phrase clé dit Siri. Dit à tout le monde que le souper est prêt. Fait qu'à ce moment-là, dans tous les haut-parleurs, dans tous les HomePods de la maison, ça va être envoyé. Et ce qui est intéressant, grâce à l'écosystème d'Apple, c'est que ça va être disponible sur tous les appareils. Donc, le message va être envoyé sur les iPhones de vos enfants. Si l'enfant a des écouteurs, il va recevoir le message dans ses écouteurs. Il peut y répondre. Si vous avez CarPlay dans votre véhicule, vous êtes sur la route, vous êtes OK, Siri dit à tout le monde que j'arrive dans 5 minutes, ben, ça va diffuser à votre maison sur tous les équipements. Fait que ça, c'est un avantage que Apple peut faire. Tout est vraiment intégré, implanté. Comme je vous disais, disponible en blanc, gris et gris-noir. 100$ US, 130$ canadien. C'est pas donné. C'est vraiment dans les hauts de gamme, même de Echo et Google, c'est 100$. Les haut-parleurs, les Echo, les Hub Audio. C'est comme la gamme principale, si on veut, 700$. On n'est pas encore avec des produits à 30, 40, 50$ là, comme les Echo Dot ou les Nest Mini. Mais au moins, c'est moins cher que les 400$ que l'HomePod pouvait coûter. J'ai bien hâte de tester aussi le son, hein, pour vrai. Je suis vraiment curieux. Je sais que ça va être moins bon que l'HomePod, mais je serais bien curieux de voir à quel point ça peut bien sonner. Ça va être en précommande le 6 novembre prochain et ça va être shippé ou disponible en magasin le 16 novembre. Ce qui est intéressant aussi, on a eu d'autres nouvelles, les HomePod original vont avoir des mises à jour aussi qui vont permettre de pouvoir utiliser les HomePod avec l'Apple TV, dédié à l'Apple TV avec un son spatial et même Dolby Atmos aussi qui va arriver, pas compatible avec les HomePod mini. Par contre, j'en parlais avec un de mes amis, ça pourrait être intéressant de voir un système, par exemple, 7.1 ou 7.0, avec deux HomePod en avant et des HomePod mini à l'arrière, à ses côtés, le centre, par exemple, pour faire vraiment un système de son, là, Apple. Je ne sais pas si Apple va vouloir aller de ce bord-là. Fait que c'est ça qui close domotique HomePod mini. Après ça, on est tombé sur l'iPhone. On a répété 5G des millions de fois. Vous pouvez aller voir, il y a même des vidéos qui rient de ça. Ils ont fait des chansons. Donc, on a poussé beaucoup la 5G. J'entrerai pas en détail dans la 5G. On sait un peu c'est quoi. Là. Ça veut dire que c'est des vitesses supérieures au 4G. Je pense que dans l'autre, ça peut aller jusqu'à 2 gigabits seconde. Donc, ça va être super rapide. Ils nous ont montré des partenariats avec Verizon aux États-Unis. Tout ça, ça va être implanté au Canada en retard. Donc, oui, le 5G est disponible au Canada, certains endroits, certains fournisseurs, mais c'est loin d'être implanté à 100%. Puis, tout ce qu'ils nous ont montré, ben, ce ne sera pas présent au Canada avant l'été 2021. d'atteindre des vitesses aussi rapides que Verizon. Et en plus de ça, il y a aussi quelque chose par rapport au millimètre. Là. Comme je vous dis, j'ai pas toute l'information technique, mais il y a une antenne qui permet d'avoir encore des vitesses plus élevées. Et ça, c'est exclusif aux États-Unis pour l'instant. Physiquement, dans le iPhone, ça sera même pas présent, cette antenne-là, ailleurs que les modèles vendus aux États-Unis. Par contre, ben, la bonne nouvelle, c'est que c'est future-proof, comme on dit, donc à l'épreuve du futur. C'est que si vous avez le 5G et que vous gardez votre téléphone 3-4 ans, bien, il y a bien des chances qu'au Canada, la 5G soit disponible chez tous les opérateurs, puis vous allez l'avoir déjà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la 5G va utiliser beaucoup de batterie sur le téléphone, et il y a un système qui permet, entre autres, de faire en sorte que le téléphone va rester sur la LTE ou la 4G. Et que si jamais vous avez besoin, vous êtes en train de télécharger, vous avez besoin d'une grande rapidité, là, à ce moment-là, il va switcher directement sur la 5G. Ah, il va donc l'iPhone 12. On a un nouveau design, un design que j'apprécie énormément, qui est un design aluminium carré, un peu comme le pouvait l'être l'iPhone 5 il y a déjà plusieurs années. La grandeur d'écran est toujours la même que l'iPhone 11, c'est-à-dire un 6.1 pouces. Par contre, on a réussi à réduire la grosseur du iPhone, donc grâce à l'écran OLED qui est maintenant disponible sur tous les modèles d'iPhone. Et on est allé en grand avec le modèle de l'iPhone Pro de l'année passée, donc le fameux XDR Display, donc qui nous permet d'avoir des images, selon Apple, de l'équivalent des écrans professionnels. Donc, toujours le HDR, Dolby Vision compatible. Donc, on peut avoir des max de luminosité assez impressionnants quand on regarde du contenu HDR. Nouveau matériel utilisé pour la vitre en avant. Donc, fini la fameuse vitre Gorilla Glass, par exemple. On y va avec une vitre qui s'appelle le Ceramic Shield, qui serait 4 fois plus résistant que le verre d'avant, donc j'ai bien hâte de voir les drop tests, les tests qu'on garoche le téléphone à terre. Peut-être que de ce côté-là, ça sera même pas meilleur, ça va peut-être être plus au niveau des égratignures, malgré que, avec les iPhones, on dirait que si vous voulez volontairement graffiner l'écran, il n'y aura rien, mais vous allez juste le mettre dans votre poche, puis il va se terminer graffiné. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. En tout cas, si jamais c'est vraiment si solide que ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant d'avoir un téléphone et l'aluminium est considéré comme plus solide, et en plus l'écran. Donc peut-être la fin des étuis, ou en tout cas du moins la moins grande nécessité. La puce à l'intérieur, c'est le A14 Bionic, donc toujours la même chose que l'iPad du mois passé qui était présenté, l'iPad Air. Donc, encore une fois, très rapide, super puissant et tout. J'ai pu voir entre les lignes aussi que le modèle iPhone 12 normal va avoir 4 GB de mémoire vive, alors que le modèle Pro va en avoir 6. Je parlerai tantôt du Pro. On a fait un exemple, on a fait une présentation de League of Legends Wild Rift disponible sur l'iPhone bientôt pour montrer à quel point la puissance du A14 est là. Le jeu avait l'air, moi je connais rien à League of Legends, je connais l'existence mais je connais pas le jeu, mais ça avait l'air bien, ça avait l'air à tourner comme sur un ordinateur. Graphiquement, ça avait l'air assez beau. Les caméras, pas de grosses nouveautés. Pour rendre ça le plus simple possible, plus de facilité à prendre des photos dans les endroits sombres, meilleur HDR grâce au Smart HDR 3, donc dans l'exemple qui nous a été présenté, par exemple, c'est une fille qui est à contre-jour avec le soleil, donc même si elle a le soleil derrière la tête, on voit bien son visage, on n'a pas une silhouette sombre. Fait que ça, c'est intéressant. Le Night Mode aussi encore meilleur. Donc, s'il y a des meilleures photos dans les endroits sombres, c'est sûr que le Night Mode aussi va être encore meilleur. Autant sur la caméra de derrière, bien, les deux caméras de derrière, parce qu'on a toujours la caméra ultra grand angle et la caméra grand angle. Donc, sur les deux caméras, le Night Mode est disponible. Je pense que c'était juste sur le grand angle qui était avec le 11. Et même sur la caméra selfie, donc la caméra devant l'appareil, pour faire des beaux selfies à la noirceur. Donc, un autre avantage des caméras. On a aussi, bien entendu, intégré le Night Mode dans les vidéos. Donc, on peut faire, par exemple, des time-lapse d'un ciel étoilé là, en mode nuit. Donc, l'exemple, en tout cas, qui était démontré était assez intéressant. Il y a aussi le retour de l'épellation MagSafe. Donc ça, c'est la touche Apple. Maintenant, les iPhone 12, tous les modèles vont avoir des aimants intégrés à l'intérieur du iPhone, qui va permettre, par exemple, d'utiliser des accessoires. Le premier, puis qu'effectivement, c'est pas bête, c'est que le fait qu'on utilise de plus en plus la charge sans fil, il s'agit, par exemple, que votre téléphone soit mal déposé ou soit pas bien aligné, et vous allez avoir deux choses qui peuvent arriver. Soit le téléphone va mettre très beaucoup de temps à se charger, ou il se chargera tout simplement pas. Donc ça vous a peut-être déjà arrivé si vous utilisez la charge sans fil de vous réveiller le matin puis finalement votre téléphone est encore à 2-3%. Ben maintenant ça va éviter ça. Dans le fond, ils vont vendre un chargeur, Apple va vendre un chargeur, mais il y a d'autres fabricants qui vont en fabriquer, justement là, des fabricants tiers qui vont en fabriquer, mais ils ne pourront pas utiliser la charge rapide sans fil, contrairement à celui d'Apple. Fait qu'Apple, ça garde une exclusivité. Donc, ça va vous permettre de pouvoir aligner facilement, un peu comme l'Apple Watch. L'Apple Watch, c'est aimanté, c'est un chargeur sans fil. Donc, vous allez tout simplement déposer votre téléphone sur la petite pastille et elle va s'aligner avec les aimants. Vous allez être sûr d'avoir une charge assurée à 100%. Et si votre fil est assez long, vous allez même pouvoir utiliser votre téléphone là, tout en étant chargé sans fil. Et ça amène aussi une panoplie d'accessoires. Donc les cases maintenant vont être aimantées. Vous allez pouvoir ajouter d'autres équipements, d'autres bébelles aimantées à votre case, par exemple. Fait que tout va s'emboîter. Comme là, l'exemple qui démontrait, c'était un étui portefeuille qu'on pouvait tout simplement coller derrière l'iPhone. Et à ce moment-là, si vous jamais voulez utiliser la charge en fil, il s'agit juste d'enlever cette petite pochette-là. Comme par exemple ma conjointe utilise ça, mais c'est tout décollant, fait qu'elle ne peut pas se permettre d'enlever et de remettre ce collant-là. Donc si elle colle directement sur son téléphone, elle peut juste plus utiliser la charge sans fil. Puis si elle le met derrière son case, bien, elle doit enlever le case à chaque fois qu'elle veut utiliser la charge sans fil. Donc là, à ce moment-là, ça va pouvoir être enlevé et remis. On a aussi des comme un rack, si on veut, pour pouvoir mettre dans l'auto qui va être faite par Belkin. Et encore une fois, je m'imagine par d'autres compagnies. Mais vous allez pouvoir aimanter votre téléphone sur votre tableau de bord de votre véhicule. Et il y a aussi ils appellent ça le MagSafe Duo, que c'est comme une petite pochette qu'on déplie, puis d'un côté on va pouvoir aligner notre iPhone pour la charge sans fil, et de l'autre côté on va pouvoir faire charger votre Apple Watch, et tout ça avec un seul câble branché sur cette petite pochette-là. Puis sinon aussi, encore une fois, Belkin ont présenté un système là, qui existait déjà, là, c'est comme un genre de support pour l'iPhone. Donc l'iPhone va avoir l'impression de flotter parce qu'il va être tenu par un aimant. Et à droite, on a l'Apple Watch. Puis dans le bas, la base de ce support-là, ça charge aussi vos AirPods. Fait que un paquet d'accessoires à dépenser, ça va coûter cher si vous mettez à dépenser. Déjà que je suis allé voir, les étuis d'iPhone sont 70$ et les pochettes là, de carte de crédit sont 80$, donc 70 plus 150$ pour une étui complète, si on veut. Ça commence à faire cher, donc je vais attendre que les éditeurs tiers là, comme Spigen ou ESR ou il y a déjà la compagnie Otterbox qui ont déjà annoncé qu'ils vont avoir des cases compatibles avec ce fameux MagSafe-là. L'autre surprise, qui malheureusement on connaissait déjà, là, si vous avez suivi un peu, l'iPhone 12 mini. Personnellement, c'est celui que je vais me procurer. La même chose que l'iPhone 12 côté technique, là, il n'y a aucune différence. La grosse différence, c'est la grosseur. On se retrouve avec un écran 5.4 pouces avec un format plus petit qu'un iPhone 8. Moi, c'est ça que j'attendais. J'adore les petits téléphones, d'avoir une brique. Moi, j'écoute pas de films, j'écoute des vidéos de 5 minutes maximum sur mon téléphone. Je ne joue pas vraiment. Fait que, non, j'attendais vraiment un plus petit format, puis celui-là, il m'a vendu. Disponible en plusieurs couleurs, en bleu, en vert, en rouge, en noir et en blanc. J'ai peut-être une petite préférence pour le bleu. C'est comme la nouvelle couleur de l'année. Donc, je vais peut-être me procurer un bleu. Et dans les prix, c'est environ 1000$ pour le iPhone 12 mini. Et 1100$, 1129$, je crois, pour le iPhone 12 régulier. Bien entendu, après ça, ben, de les rabais avec votre fournisseur si vous l'achetez là, avec une entente de 2 ans. C'est dans les mêmes prix que les années passées, malgré que, oui et non, c'est-à-dire que l'iPhone 12 qui est surremplaçant de l'iPhone 11 se trouve avoir augmenté là, d'environ 100$ parce qu'on a mis l'iPhone 12 mini au prix du iPhone 11 l'année passée. Fait qu'on se fait avoir là, pour celui qui, ou celle qui veulent avoir un iPhone de toujours de la même grandeur, d'un écran de 6.1 pouces. Mais c'est un beau téléphone, il y a la 5G à l'intérieur, on a beaucoup d'améliorations. Je pense que ça vaut l'augmentation. Mis à part une dernière chose, il n'y a plus d'écouteurs et de chargeurs dans la boîte. Donc, on est allé du côté de l'environnement chez Apple pour nous faire avaler la pilule qu'on n'aura plus de chargeurs et d'écouteurs. Donc, ça permet de réduire la boîte, ça permet d'économiser beaucoup monétairement pour Apple. Puis aussi au niveau de l'environnement. Le câble qui est fourni avec, ça aussi c'est une petite déception, c'est un câble Lightning. Donc vous allez dire ok, c'est correct. Non, mais l'autre bout du câble, c'est un câble USB-C, ce n'est pas un USB-A. Donc toutes les briques que vous avez à la maison, à part si vous en avez des USB-C, là, vous risquez d'avoir de plus facilement trouver des USB-A. Donc si vous aviez un iPhone, à part le modèle Pro de l'année passée, là, tous les iPhones ont toujours venu avec une brique 10 watts, je crois, d'iPhone avec une prise USB-A. Donc là, vous allez vous retrouver avec un fil que vous ne pouvez pas connecter nulle part. Mais si vous avez déjà un chargeur USB-A, vous avez déjà un fil Lightning. Fait que vous pouvez tout simplement laisser le fil dans la boîte, ne pas y toucher, utiliser le même chargeur de votre ancien iPhone, iPad, peu importe, et ça va fonctionner. Donc, c'est pas un gros compromis. C'est pas mal moins dispendieux d'aller vous acheter un câble à 10$ sur Amazon Lightning. Là. Bien important pour les câbles, toujours choisir un câble MFI, donc Made for iPhone, parce que vous allez vous retrouver avec des problèmes de recharge de batterie et tout, là, ou des compatibilités tout simplement, il ne voudra pas se charger. Mais vous pouvez en trouver à 10-15$, alors qu'une brique USB-C, vous risquez de pas trouver ça en bas de 20-30$. Fait que c'est juste ça. Achetez-vous un fil. C'est plat. C'est sûr et certain que c'est des coûts supérieurs pour nous. Les écouteurs, par contre, les écouteurs et la prise, ils ont baissé le prix sur le site d'Apple. C'est toujours une 20, comme je vous disais, 25-30$. Là. Fait que si vous achetez les deux, on est déjà rendu à 60$ de plus. Mais tu sais, en tout cas, si vous êtes vraiment pas chanceux, vous n'avez pas la maison. C'est plat surtout pour ceux qui passent d'Android à iPhone, qui pourraient être intéressés. Il va falloir quand même qu'ils s'achètent les accessoires. Mais sinon, en temps normal, pour ceux qui suivent la gamme d'iPhone, c'est pas un achat de plus que vous allez faire. Fait qu'on est par ça, on passe à l'iPhone 12 Pro. L'iPhone 12 Pro, ben, même principe que l'autre, une nouvelle vitre en avant. Le MagSafe, le même processeur. Comme je disais, il y a la RAM, là, la mémoire vive, qui est un petit peu plus supérieure sur le modèle Pro. Côté Pro, on a le look qui se trouve être en stainless steel au lieu d'être en aluminium. Des coloris un peu différents. On a un bleu, un or, un argent et un noir. Des beaux modèles, l'or, il sort assez bien. On est revenu plus à une couleur or et non pas un gold rose, là, rose gold. On est vraiment plus côté or, ça ressemble à un lingot d'or. La partie pro, ben, c'est bien entendu tout ce qui est photo. Je vais en parler tout de suite avant de l'oublier. La grosse nouveauté, c'est l'enregistrement. La caméra est capable d'enregistrer en Dolby Vision HDR 4K 60 fps. Et possibilité d'éditer la vidéo directement dans l'application photo ou dans iMovie sur le téléphone. C'est impressionnant. Vous n'allez sûrement jamais utiliser ça. Vous n'allez jamais en avoir besoin. Mais le fait d'avoir une caméra Dolby Vision, capable de filmer en Dolby Vision dans un téléphone, c'est très impressionnant. La raison pourquoi, parce que même au cinéma, le format HDR tout court, HDR Plus ou HDR 10, c'est un format qui est plus utilisé parce que c'est un open source, donc il n'y a pas vraiment de frais associés à l'utilisation de ça. Alors que Dolby Vision, ben, ça appartient à Dolby, donc à chaque fois qu'un format l'utilise, ben, il doit payer des droits. Et en plus de ça, l'équipement pour faire tourner du Dolby Vision est très cher. Là, vous avez ça dans un téléphone. Fait que c'est assez impressionnant. La différence, par contre, sur l'iPhone 12, vous allez avoir aussi cette caméra-là. Vous allez pouvoir filmer en Dolby Vision. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que c'était seulement en 30 FPS et non pas en 60. Donc, 30 images secondes. Mais au moins, c'est disponible sur tous les modèles. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Et sinon, ben, tout ce qui est photo, bien entendu, c'est de l'amélioration. Et là, pour la première fois, il y a une différence entre le Pro et le Pro Max. Donc, bien entendu, le format. Le Pro, maintenant, passe de 5,8 pouces à 6,1 pouces. Fait qu'on se retrouve avec deux modèles 6,1 pouces. Fait que pour ceux qui voulaient avoir un Pro d'entrée de gamme, mais avec un plus grand écran, ben c'est fait. Vous allez avoir un 6,1 pouces. Et le format Pro Max passe de 6,5 à 6,7 pouces. Donc, encore plus gros, mais en réussissant à quand même garder un format de téléphone assez similaire à l'ancien modèle, là, le 11 Pro Max. Et comme je vous disais, dans le fond, le Pro Max a des avantages encore au niveau de la photo. Ce que j'ai pu comprendre, c'est que le format plus grand permet d'avoir des capteurs plus grands au niveau de la photo. Donc, vous allez avoir... Pour faire ça simple, la grosse nouveauté, c'est la possibilité d'avoir un troisième appareil photo. Les deux modèles ont trois appareils photo. La même chose que le 12, là, le ultra grand angle, le grand angle. Mais on a aussi le téléphoto qui permet des zooms. Et sur le format max, vous allez avoir encore un zoom plus élevé. Possibilité de faire un plus grand zoom là, sur les images. Sinon aussi, on est rendu avec un format Pro RAW qui se trouve être un format là, similaire aux caméras professionnelles. Et on a aussi le LiDAR, donc un autre capteur. Donc c'est comme un quatrième capteur photo, mais c'est plus petit là. Ce que ça permet dans le fond, c'est tout simplement... Le LiDAR, dans le fond, c'est, ça envoie des lasers dans un espace et ça permet, avec le retour de la lumière, de calculer la profondeur, donc de faire une image 3D de votre environ. C'est utilisé surtout pour la réalité augmentée. Fait que ça va vous permettre, par contre, par exemple, de situer parfaitement les objets. T'sais, si vous avez déjà utilisé la réalité augmentée, vous savez que si par exemple vous mettez un équipement, vous faites apparaître par exemple un bonhomme sur une table, dépendamment de l'angle que vous pouvez être, il peut dépasser de la table. Ce ne sera pas exactement comme on l'imagine. Avec le LiDAR, ça permet de ça. Ça permet de voir physiquement qu'il y a une table en 3D devant l'appareil photo. Et c'est possible de faire ça en noirceur, parce qu'un appareil photo ne permet pas. On ne peut pas voir d'objets à la noirceur. Fait que ça va faire en sorte que pour la réalité augmentée, ça va être mieux. Mais en plus de ça, ça va faire en sorte aussi que le focus va se faire mieux dans des environnements sombres. Donc, si vous prenez une photo et de quelqu'un qui est à l'ombre, qui est dans un coin sombre, vous allez facilement avoir un focus qui va être fait. Ça va être plus rapide d'aller prendre une photo de cette personne-là. C'est ce qui complète pas mal. À part ça, c'est vraiment du technique là. Ça va prendre des plus belles photos, on le sait, mais c'est ce qui est annoncé. Vous allez pouvoir précommander l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro à partir du 16 octobre. J'enregistre justement le 16 octobre, donc vous pouvez à partir de maintenant pour une sortie pour le 23, donc vendredi prochain, 23 octobre. Là, vous m'avez attendu, le iPhone 12 mini et l'iPhone 12 Pro Max, eux, seront disponibles seulement que le mois prochain, donc une précommande le 6 novembre prochain, pour une sortie le 13 novembre prochain. Donc, premier vendredi du mois de novembre, vous allez pouvoir précommander et une semaine plus tard, vous allez pouvoir le recevoir ou aller le chercher directement en magasin. Pour ce qui est des prix, j'ai oublié de vous dire pour le Pro et le Pro Max, donc on est à 1400$ pour le Pro et 1550$ pour le Pro Max. Donc on reste pas mal dans les mêmes prix là, que les années passées pour les modèles Pro. Apple garde, c'est sûr que si vous faites affaire avec un fournisseur, il va avoir du stock à repasser, là, mais les modèles exacts là, qui restent du côté d'Apple, là, ce sont le modèle SE, le modèle 10R, le modèle 11, le modèle 12 et le modèle 12 Pro, avec les variantes, là, le mini et le Pro Max. Donc, il y a encore le 10R quand même qui est là, c'est impressionnant. Pour ceux qui ne veulent rien savoir de la photo, ça peut être un modèle assez intéressant parce qu'avec le 11, il n'y a aucune différence, mis à part l'appareil photo. On va laisser ça tomber pour ce qui est des autres sujets. Je ferai un autre podcast, on s'en reparlera la semaine prochaine. J'imagine que j'aurai avoir le temps d'en enregistrer un autre la semaine prochaine. Et j'espère que vous avez apprécié ce résumé là, de cette conférence-là qui a duré La conférence a duré une heure. Elle n'a pas duré longtemps. On a présenté que seulement deux produits. Des déceptions, on n'a pas les écrans 120 Hz sur les modèles Pro. Ça, c'est ce qu'on attendait. Au moins, ça aurait fait quand même une différence pour l'usager normal. Parce que là, on s'entend que les modèles Pro sont vraiment axés pour les professionnels. Il n'y a aucune utilité. Si vous ne savez pas utiliser une caméra photo, c'est ça, pas mal ça. Il n'y a pas vraiment d'utilité de prendre le modèle Pro, à part pour le look peut-être, et vous dire que vous en avez un meilleur, le 6 GB de RAM qui peut peut-être changer si vous êtes vraiment un power user qui utilise plusieurs applications en même temps, peut-être. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, le 12 va faire grandement l'affaire. Avec l'écran OLED là, de très bonne qualité, c'est vraiment ce qui manquait, je trouve, personnellement, sur les modèles ordinaires. Et puis, on attendait aussi des AirTags, donc la possibilité de mettre des tags sur des objets pour pouvoir les retirer assez facilement dans la maison. Ça a été reporté à l'année prochaine, supposément. Tout ce qui est Mac aussi, si vous attendiez le premier Mac avec une puce Apple. S'il y a des rumeurs que ce serait peut-être présenté au mois de novembre, le mois prochain, qu'il y aurait un autre événement, on pourrait enfin annoncer la sortie officielle de macOS 11 qui est toujours en bêta. Pas de sortie officielle non plus d'annoncer. Fait que ça pourrait être annoncé au même moment. Fait que c'est sûr que c'est une autre conférence. Je vais vous revenir là-dessus. Bon, j'espère que je suis un peu plate, hein, je finis avec les déceptions. Mais j'espère que vous avez apprécié encore une fois. Puis sinon, on se revoit dans un autre podcast. Bye bye!